Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why I'm hot.
France Culture, 19h02 donc, bienvenue dans Soft Power en direct, jusqu'à 20h depuis le studio numéro 1, au 9e étage de la Maison de la Radio. Bonsoir à tous. Deux invités ce soir dans cette émission, deux invités aussi différents que complémentaires. Nicolas Prinsen est un start-upper. Il va lancer Glose, une plateforme dédiée aux livres. Occasion pour nous de parler ce soir de l'avenir du livre à l'âge numérique. Bonsoir Nicolas Prinsen. En un mot, Glose,
c'est quoi? La lecture 2.0. C'est une plateforme qui permet aux gens de découvrir, acheter, lire des livres numériques sur tous leurs devices, c'est-à-dire leur smartphone,
tous les appareils,
leur tablette, ouais. tous les appareils numériques.
Et notamment très concentré sur le smartphone.
Absolument, la lecture sur mobile se développe et on veut y participer.
Est-ce que le futur du livre, l'appareil pour lire des livres sera un smartphone? On en parlera. On parlera aussi du livre numérique, plus globalement de ce marché encore frémissant, moins qu'on ne le pensait, mais frémissant quand même. On parlera du livre par abonnement illimité, du livre sur les réseaux sociaux et du livre comme objet de formation continue. Bref, le livre dans tous ses états avec vous, Nicolas Prinsen, ce soir. À vos côtés, j'ai le plaisir de recevoir Norman, un YouTuber. C'est une autre formule. Après avoir parlé des start-upers, il y a les YouTubers. C'est quoi un YouTuber, Norman?
Alors, YouTuber, c'est un individu qui fait des vidéos sur le site internet youtube.com.
Mm-hmm. Voilà. Vous avez été humoriste de l'année 2015. Prix décerné par JQ France, vous êtes l'un des plus célèbres youtubeurs français avec plus de 7 millions d'abonnés sur YouTube. Tout récemment, le chiffre a été franchi, la barre a été franchie.
La barre a été clairement franchie, on peut le dire.
Presque 1 milliard de vues pour vos vidéos sur YouTube.
Oui, c'est ça. On dirait que je suis une interro. Oui, c'est ça, tout à fait.
Alors pour l'instant, c'est facile comme interro. Il y a eu deux chiffres, 7 et 1.
C'est simple.
7 plus 1, ça fait combien?
J'ai arrêté en CP.
Mais non, c'est vrai, vous êtes allé à l'université.
Vous savez mieux que moi mon parcours.
À Paris,
incroyable. Oui, bientôt 1 milliard de vues, c'est vraiment exceptionnel. Quand les gens me posent la question et que je dis 1 milliard, ils pensent que c'est une blague.
Ouais. C'est même plus que Gangnam Style, ou presque.
C'est pas plus.
Parce que non, Gangnam... c'est moins.
Mais là, on est vraiment dans la technique. On n'est pas venu pour parler technique. On est venu pour parler de la culture, puisqu'on est sur France Culture. Alors, je vous laisse continuer.
Bravo. À 19h20, l'alphabet numérique, notre séquence décryptage du web. Ce soir, nous nous intéresserons justement aux YouTubers. À mes côtés tout au long de cette émission, Marjorie Payon de France 24. Bonsoir Marjorie.
Bonsoir Frédéric.
Vous avez vu, ça commence fort ce soir.
Absolument, je pense que ça va être une apothéose en fin de
vous
émission.
Allez vous le tenez un peu, il est à vos côtés.
Si... Alors je le tiens s'il veut, hein. Moi je propose mon aide, c'est tout.
Calmez-vous.
C'est Soft Power jusqu'à 20h à suivre sur Twitter, au mot-clé Soft Power sur notre playlist de 10h, ainsi que sur Instagram, Medium, Vine, Facebook en podcast, en vidéo et sur France Culture en direct. Numérique, livre électronique, curation, livre par abonnement illimité, le livre sur les réseaux sociaux. Nous allons parler de tous ces sujets avec vous, Nicolas Prinsen. Mais juste avant d'aborder ces questions de fond autour du livre, j'aimerais peut-être revenir sur votre parcours, car les auditeurs ne se souviennent pas peut-être que vous avez été le premier véritable monsieur numérique français. Vous aviez 23 ans à l'époque, c'était peut-être, on peut presque dire, le plus jeune dans cette position. Vous étiez conseiller numérique de Nicolas Sarkozy dès 2007. Vous gardez quel souvenir de cette période, disons, de votre jeunesse?
Un excellent souvenir, parce qu'entre 2007 et 2012, il s'était passé énormément de choses sur Internet. Et c'est vrai que j'avais eu la chance d'être le premier à, en quelque sorte, porter ce dossier à l'Élysée. Et ça a été un dossier extrêmement riche, qui s'est enrichi au fur et à mesure. Et c'était à la fois des sujets économiques, des sujets juridiques, des sujets sociaux. Et je pense que le numérique est aujourd'hui partout dans nos vies. Dites-vous qu'en 2007, c'est l'année du lancement de l'iPhone. Donc avant 2007, il n'y avait même pas d'iPhone. Donc ça a été un vrai privilège d'accompagner le développement de l'économie numérique en France à ce moment-là.
Depuis, vous avez grandi.
Mm-hmm.
Vous avez créé votre start-up.
Je peux poser une question?
On va, allez-y, oui.
C'est quoi conseiller numérique de Nicolas Sarkozy?
Ça veut dire qu'en fait, tu es en charge de tous les dossiers numériques. C'est-à-dire
je sais pas.
C'est-à-dire que par exemple, quand il était président, si Google voulait venir pour parler de dossiers numériques et voir comment investir en France, c'est par moi que ça passait. Ou si Mark Zuckerberg venait à Paris pour discuter du futur de Facebook.
Ce qui fut le cas,
c'est par moi que ça passait. C'est moi qui essayais d'organiser tous ces rendez-vous-là.
D'accord.
Et dès que le patron de Google venait à Paris pour parler du développement de YouTube en France, s'il passait à l'Élysée, en général, ça
grosso
passait.
Grosso modo, il n'y aurait pas de Norman sans Nicolas Prinsen.
Ouais.
C'est dire et subir presque.
Norman, il n'y a vraiment pas besoin de moi.
Bon, en tout cas, c'est super classe. Je pense que ça mérite.
Vous auriez aimé vous être aussi.
Ouais, merci. Merci. J'en suis à 3 vues sur YouTube, donc j'ai encore du chemin pour être plus.
Non, mais c'est plutôt stylé.
Je suis fan de Norman, je tiens à le dire. Donc voilà.
Et il est fan de Nicolas Brissette, vous voyez.
Je suis désormais fan de vous. Je suis d'ailleurs aussi amoureux de vous. Non, mais en tout cas, je ne connaissais pas cet intitulé, ce métier, et je suis très content de le connaître.
Il a disparu depuis, donc ça tombe bien.
Il y a même une formation, comment devenir le BTS, comment devenir conseiller numérique de Nicolas Sarkozy. C'est un truc très très prisé, surtout en ce moment. On se souvient du G8, du G8 du numérique en 2011. C'était Mark Zuckerberg, patron de Facebook. Il avait participé à ce G8. Jeff Bezos, patron d'Amazon. Jack Ma, patron d'Alibaba. Eric Schmidt, patron de Google. Et même Bill Gates était venu à Paris. C'est vous qui aviez organisé cela avec Publicis, notamment Maurice Lévy. Rétrospectivement, ça avait été une date marquante. Ça avait changé quelque chose dans le numérique en France?
Disons qu'à l'époque, vraiment l'objectif c'était de donner de la visibilité à la France dans le monde du numérique. C'est une époque où on parlait beaucoup des géants américains qui venaient en France et qui venaient en Europe imposer un petit peu leurs règles. Et nous, une grosse partie de notre travail, en dehors de rencontrer Mark Zuckerberg, etc., c'était surtout de pousser l'écosystème numérique français, que ce soit les start-up ou les grandes entreprises du numérique. Et c'est vrai que ça avait été assez marquant parce que la planète du numérique était venue à Paris pour échanger. Et puis les leaders de cette économie étaient ensuite allés à Deauville, où ils avaient été reçus pour la première fois par les chefs d'État du G8 pour discuter de ce qui allait être l'avenir d'Internet et notamment des grandes valeurs qui devaient guider son développement. C'est une période où se dictaient un petit peu les valeurs qu'allait développer Internet, notamment une heure où le G8 était une instance pertinente pour parler de ça parce que le G20 ne l'était pas.
Et là, vous aviez un nouveau 23, 24, 25 ans, donc c'était assez marquant, j'imagine, pour vous, d'organiser ce type d'événement avec ces grands noms du numérique.
C'était génial, j'ai travaillé avec Maurice Lévy là-dessus, et c'était vraiment un grand moment, j'espère, pour la France.
Une réaction de Norman, puisque vous ponctuez un peu comme avec des virgules entre les questions que nous posons.
Vous voulez une virgule? Je suis entouré vraiment de gens qui pèsent, c'est incroyable. J'ai l'impression que moi, avec mes sketchs sur les chemises ou les toilettes, je suis vraiment loin de ce...
Je suis étonné que tu aies mis une chemise aujourd'hui, parce que tu as un sketch anti-chemise.
Oui, mais j'ai changé.
Moi, j'ai mis un t-shirt.
J'ai changé depuis ce matin.
C'est pour ça qu'on vous a invité ensemble. On s'est dit, il y a un mec sérieux, puis il y a un petit jeune là.
Le mec sérieux, c'est lui.
C'est explosif. On est vraiment très proche de l'explosion. Non, mais moi, je suis en train de boire les paroles de Nicolas. Je trouve ça intéressant et sans ironie. Donc, je vous laisse parler.
Nicolas Prinsen, parmi vos actions, il y a eu la création du Conseil national du numérique. Cette semaine, un nouveau président du Conseil national du numérique a été nommé par François Hollande, Mounir Majoubi. Une réaction sur ce qu'est devenu le Conseil national du numérique?
Moi, j'avais créé en fait le Conseil national du numérique en 2011. C'était une époque où le secteur du numérique n'avait pas vraiment de représentants. Et quand, par exemple, le président de la République voulait parler à des représentants du numérique, il n'y en avait pas vraiment, ou alors c'était un peu éclaté. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est super que le Conseil national du numérique ait survécu après 2012 et qu'aujourd'hui soit représenté par une assemblée de gens qui me paraissent très bien. Il y a à la fois des chefs d'entreprise, des universitaires, et tout ça est vraiment une bonne chose, et je souhaite bon courage au nouveau président et à la nouvelle assemblée. Même si ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, le Conseil national numérique, c'est un outil parmi d'autres pour représenter le numérique. Je pense surtout à France Digital, qui est une organisation là beaucoup plus organique, c'est-à-dire qui vient du secteur du numérique, des chefs d'entreprise, des investisseurs, qui essaient vraiment de réfléchir à l'avenir du numérique, et c'est bien qu'il y ait plusieurs instances pour le faire.
Ça veut dire que Marie Eklund aurait fait une meilleure présidente du Conseil national du numérique que
J'en sais rien, on verra. Je crois déjà qu'il faut saluer la présidence de Benoît Thuelin, qui était plutôt bien. Et puis qui était assez autonome vis-à-vis du pouvoir en place. Il pouvait faire entendre une petite musique parfois, notamment sur des dossiers comme l'état d'urgence.
Et ce sera moins le cas avec un président dont on sait qu'il est proche de la famille Hollande?
Je ne sais pas, on verra.
Sans commentaire?
Non, je le connais à peine, on s'est parlé
deux
fois.
On dit aussi qu'il y a eu peu d'universitaires, finalement les chercheurs ont un peu disparu dans les membres du Conseil national numérique. On a un peu l'impression qu'au fond, c'est pas une institution très importante, ni pour l'Élysée, ni pour Matignon, vu les nominations, vu ce qu'elle est devenue.
On verra, moi je peux vous parler de la façon dont j'avais fait le casting en 2011, ou en tout cas essayer, mais aujourd'hui c'est vrai que la logique est un petit peu différente, on verra ce que ça donne, on jugera au résultat.
Alors justement, on va retomber sur votre actualité, c'est Gloss, justement cette première plateforme de lecture numérique et sociale. L'idée c'est d'échanger avec les lecteurs, avec les auteurs également. Nicolas Sarkozy vient de sortir un livre, ça ne vous a pas échappé, La France pour la vie. Il se trouve qu'il est disponible en version Kindle, on va pouvoir le trouver sur Gloss par exemple?
Bien sûr. Alors, Gloss, on n'est pas encore sorti en France, même si, bon, vous pouvez aller sur le site et y voir des choses, mais on n'est pas sorti formellement.
C'est annoncé pour février-mars, au printemps?
pour bientôt, on y travaille, glosse.com. Mais oui, ça fait partie des livres qu'on distribue, parmi beaucoup d'autres livres d'hommes politiques en ce moment. Et en effet, il est sur Kindle, il est également sur Glosse.
Ce qui veut dire que le livre politique, c'est un genre en soi qui suscite justement de l'engagement et de la conversation, parce que c'est ça l'idée principale sous Glosse, c'est justement de créer une communauté de lecture, une communauté de lecteurs, et remettre du dialogue au sein de l'objet littéraire lui-même.
C'est vrai que l'idée avec Glosse, c'est d'utiliser le livre comme un moteur de conversation entre les gens. Et on se dit qu'une conversation qui naît dans un livre sera nécessairement peut-être plus informée ou en tout cas intéressante pour ceux qui veulent y contribuer. Tous les médias aujourd'hui génèrent des conversations, que ce soit la musique, la vidéo sur YouTube ou ailleurs. Et le livre ne le fait pas encore.
Et alors comment on communique, comment on crée une conversation avec des livres?
Mais c'est que nous, on a développé une technologie qui permet au lecteur sur Glosse, que ce soit sur son smartphone ou sur son ordinateur, de rajouter des notes dans la marge du livre, phrase par phrase, s'il le souhaite, soit de les garder pour lui, soit de les rendre publiques, et ainsi d'échanger avec les autres lecteurs à l'intérieur du livre. Donc on essaie d'amener une logique sociale dans un objet culturel qui aujourd'hui ne l'est pas.
Pour vous, après l'expérience dont on a parlé à l'Élysée, c'est comme une sorte de renaissance, on repart à zéro pour monter sa propre start-up, on serrait la main de Mark Zuckerberg et tout à coup on est là à bricoler sa petite société anonyme, voire même sa SARL, on fait ses voyages à Londres pour essayer de monter une start-up, c'est une expérience, on change de monde quand même.
C'est exactement ça, c'est ce que je voulais à la fois pour moi, et puis il n'y a pas de raccourci de toute façon, monter une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est vraiment partir de zéro. Alors parfois on a quelques avantages, moi je connaissais un petit peu de monde quand même, mais c'est vraiment partir à zéro, j'ai commencé tout seul chez moi, puis ensuite dans un sous-sol d'une autre entreprise, et puis ensuite maintenant ça se développe mieux.
Nicolas Prinsen ainsi que Norman sont mes invités ce soir jusqu'à 20h. Vous pouvez leur poser vos questions et réagir sur le futur du livre numérique ou sur Norman et ses chemises sur les réseaux sociaux, hashtag softpower. Avec nous Norman, donc, qui à 11 ans était déjà sur, non pas YouTube, mais déjà faisait des vidéos. On vous écoute, votre réaction juste après.
Bonsoir ! Une émission animée par Norman ! Bon, là je vais vous chanter l'extrait d'une chanson russe, un truc du genre.
Voilà. C'est venu de ça.
Je m'en souviens très bien, c'est la voix de moi puceau. un homme qui n'a pas mué du tout. Exactement, je faisais des petits sketchs devant mon garage où je reprenais un peu les sketchs de Robin des Bois. Bon, j'étais très fan.
Mais à l'époque, il n'y avait pas YouTube, on vous en faisait quoi?
Il n'y avait même pas Internet.
Ouais. Donc vous les gardez pour vous, pour vous
les Je les gardais dans la caméra HI8 de mon papa. Je faisais des sketchs avec ma sœur, bon voilà, je suis pas le seul au monde à avoir fait ça, mais c'est vrai que c'était passionnant à l'époque, je me souviens. J'étais déjà un peu fan de ce divertissement,
De cette culture.
Oui, il y avait pas vraiment de cette culture à l'époque, elle est née après, mais je me souviens qu'on s'amusait à faire ce qu'on appelle du tourné-monté avec ma sœur sur la caméra, c'est-à-dire qu'il y avait même pas de montage. Enfin, du moins, nous, on n'avait pas les moyens de faire du montage, donc on faisait les plans à la chaîne, et puis s'il y avait un plan raté, c'était terminé, on devait tout refaire.
Je dis culture, ça veut dire qu'il y avait quand même déjà des influences. Il y avait déjà le jeu vidéo sous certaines formes, il y avait l'humour, il y avait déjà beaucoup de stand-up, de one-man show, etc. En termes de cinéma, d'humoristes, etc. C'était qui vos références, quelles étaient-elles?
J'avais vraiment la référence d'un garçon de 11 ans qui s'intéresse un petit peu à tout. Donc je prenais ce à quoi j'avais accès. À l'époque, j'étais un... Qu'on s'appelle, abonné à CanalSat et je regardais pas mal les Robin des Bois sur Comédie. Voilà, les grands de l'époque, Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, etc., Eric et Ramzy. Moi, simplement, quand on regarde ces petits sketchs que j'ai enregistrés avec ma sœur, c'est simplement les répliques totales de ces humoristes. Il n'y a aucune création, mais bon, c'est les jeux d'un gosse. Depuis, ça a changé, je fais mes propres sketchs.
Alors, comment vous avez changé? Qui êtes-vous, Norman? Portrait en moins d'une minute par Marjorie Paillon.
La mission est difficile. Locomotive artistique du 21e siècle ou chômeur possédant une caméra. C'est comme ça en tout cas que vous vous décrivez sur votre profil Twitter. Mais Norman Tavo, vous ne faites pas que des vidéos. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, on vient de l'entendre, à 11 ans déjà, vous piquiez le caméscope de votre père pour parodier des émissions télé. Puis c'est finalement à l'ère d'Internet que vous allez exploser. C'est au tout début des années 2010, à l'ère des plateformes de partage de vidéos. C'est en passant de Dailymotion à YouTube que vous vous ferez un prénom. Les cadeaux de Noël, les bilingues ou avoir un chat, autant de sketchs filmés depuis votre chambre à Montreuil qui résonnent à grands coups de clic sur les écrans d'ordinateur et les smartphones de vos fans. Car Norman, vous vous comptez aussi en chiffres, on l'a dit tout à l'heure. À la pesée, ça fait d'où le deuxième plus gros youtubeur de France, juste derrière votre ami Cyprien. Vous venez de dépasser donc la barre des 7 millions d'abonnés et du milliard de vues sur YouTube, plus de 4 200 000 followers sur Twitter et autant de fans sur Facebook. Vous avez un sens de la vine qui ne séduit pas qu'un public de préadolescents. Vous rappelez avec fierté que les 18-34 ans constituent, et oui, aussi votre audience. Des millions de vues que vous convertissez désormais en vrai visage. Cette fois-ci, ça se passe dans les salles de spectacle. Pris en main par Kader Aoun, c'est le producteur qui a propulsé Jamel Debbouze, Eric et Ramzy ou encore Omar et Fred. Vous voici désormais sur la scène du Palace et surtout en tournée partout en France pour un one-man show en bonne et due forme. Déjà 200 000 spectateurs qui se sont prêtés au jeu. De quoi vous propulser humoriste de l'année 2015 pour GQ.
Sens de la vine, ça vous a...
Vraiment, c'est un portrait totalement élogieux et stylé. Merci, je suis très flatté.
Mais c'est mon rôle dans cette émission, cette fois-ci.
Il y a vraiment un sans faute, on dirait que le mec, il a aucun problème dans sa vie, tout est nickel. Une sorte de champion du monde.
C'est quoi vos problèmes ?
Parlons de mes problèmes. C'est parti pour une séance de psy. Non, mais en tout cas, merci. J'ai envie de vous faire un câlin. Mais
bon,
on va continuer l'émission quand même.
On a laissé deux places entre vous. La tournée passe par Toulouse, ce sera le 18 février, juste avant, vous serez à Nancy d'ailleurs samedi prochain. Puis le 24 février au Mans, le 19 à Pau, vous voyez, je le dis dans le désordre. Le 24 février au Mans, à nouveau, le 25 février à Nantes, puis à La Rochelle, ainsi que à Paris où vous reviendrez le 4 avril au Théâtre du Rond-Point, ainsi qu'à La Cigale le 23 avril. Quand on passe de YouTube, quelque chose qu'on fait chez soi ou même en studio, à la scène, c'est comme une métamorphose. Comment on l'assume? Comment on l'a fait cette métamorphose?
Disons que chacun utilise YouTube à sa manière. YouTube, c'est un média, il n'y a pas de code particulier à avoir. Chacun fait des choses très différentes. Et c'est ça que j'aime bien aussi quand on m'invite dans une émission pour parler. J'aime bien qu'on dise, tiens, tu es un YouTuber qui fait ça. Même s'il y a des gens qui ont du mal à associer le mot artiste avec YouTube. Parce que, bon, pour plein de raisons.
Ça vous blesse?
Ça me blesse pas. J'ai pas envie de pleurer, mais n'imagine pas le travail qu'il y a derrière. Moi, chaque seconde de ma vie, je réfléchis, je fais des nuits blanches, je m'arrache les cheveux pour essayer de faire les meilleurs sketchs possibles au monde.
Il vous en reste quelques-uns.
Il m'en reste beaucoup. Mais très bonne vanne. Mais en tout cas, voilà, c'est une partie de ma vie, vraiment. YouTube, pour pas dire toute ma vie. Et les gens s'en rendent pas compte, forcément. Donc c'est vrai que quand on est pris pour des sortes de rigolos, un petit peu, qui font ça vraiment le dimanche après-midi pour s'amuser.
Là, c'est le dimanche soir, mais on ne prend pas. Vous êtes quand même invité de France Culture. C'est la première fois que ça vous arrive, je pense.
Bref, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un peu banalisé ça, mais après, bon, bref, peu importe. Qu'est-ce que je voulais dire ?
Marjorie Paillon, elle va vous poser une
question. Oui, moi, j'avais une question, si vous voulez. Justement, quand on re-regarde cette image que vous avez aujourd'hui, quel regard vous portez sur la façon dont les médias dits traditionnels vous observent ? On se souvient, par exemple, de cette séquence où Natou était invité dont n'est pas couché il y a quelques semaines, et où Laurent Ruquier, Léa Salamé ou encore Yann Wax, finalement, l'interrogent comme si elle était un peu un phénomène de foire, en disant « Tiens, vous faites des vidéos sur YouTube, ça semble fonctionner. » Et finalement, on se glossant un peu du fait qu'elle ait peut-être plus de millions de vues et d'audience qu'eux en une seule émission. Finalement, vous vous dites quoi ? Il y a quand même une revanche des fans ?
C'est vraiment intéressant. C'est carrément un sujet. Quand Léa Salamé demande à Natou, je me rappelle très bien, elle a posé cette question. Elle dit, mais vous n'allez pas quand même faire du YouTube toute votre vie ? Comme si c'était un média, une activité qui ne méritait pas qu'on y voue sa vie. Mm-hmm. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce genre de chroniqueurs, pas elle en particulier, mais ce sont des gens qui sont vraiment sur des sièges éjectables. Des chroniqueurs qui, à tout moment, sur simple décision d'une chaîne, peuvent être éjectés de leur poste. Et quand on voit ces youtubeurs qui, à succès, bon, qui ont la chance de cartonner, mais ils sont complètement indépendants, ils n'ont pas de chef, ils font plusieurs dizaines de millions de vues par vidéo, et finalement, ils sont beaucoup plus libres et indépendants que ces chroniqueurs qui les dénigrent.
En même temps, vous avez été courtisé, on dit, par le Grand Journal, par d'autres, des projets cinéma aussi. Vous les avez refusés pour une part, pour d'autres, vous hésitez. Quelle est l'actualité, en l'occurrence, Norman, à ce sujet ?
Par rapport au cinéma ?
Par rapport à la télévision, par rapport au cinéma ?
Disons que j'ai pas vraiment eu beaucoup de modèles, puisque YouTube en France est assez nouveau, même dans le monde. Donc, j'ai pas eu de repères pour faire comme les autres, comme j'aurais pu le faire si j'avais commencé par la scène.
C'est une page blanche, en fait.
C'est un peu une page blanche, donc c'était un peu délicat. Je me suis beaucoup cherché, qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que mon but dans la vie, c'est d'être quelqu'un de connu ? Pas spécialement, j'ai envie de faire mes petites créations. Et en fait, j'ai finalement décidé de rester sur YouTube. C'est un média sur lequel je suis né, j'ai grandi, je sais très bien l'utiliser. Et puis, 3 ans après, j'ai commencé la scène.
Je fais les trucs un peu malsains. Je mène une vie d'assassin à éliminer sans pitié les Templiers. J'arpente les rues, sapé comme un moine, l'âme dans la manche, tueur dans l'âme. Dans l'anonymat, je mène une vie semée d'embûches. Je suis personne, caché sous ma capuche. Quand je suis dans la foule, je suis sous ma capuche. Quand j'assassine, je suis sous ma capuche. Quand il pleut, je suis sous ma capuche. Quand j'enlève ma capuche, je suis sous ma capuche.
Ouais, mais ce que t'as pas dit, c'est que ta capuche, c'est surtout pour...
Qu'est-ce qu'on écoute là?
On écoute l'un de mes tubas.
Tubes sur YouTube.
Exact. Deuxième van de qualité.
Absolument. On en a prévu quelques autres.
Un YouTuber se cachant Frédéric Mertel.
Exact. Bref, non, c'est une chanson que j'ai écrite avec mes amis, etc., que je chante avec Squeezie, un autre YouTuber, qui parle de l'univers du jeu vidéo Assassin's Creed. Alors, je sais pas si ça vous parle.
Bah oui, c'est un jeu vidéo d'Ubisoft, d'ailleurs.
Bah voilà, je vois que monsieur est calé.
Mais est-ce que ça veut dire, au fond, que vous avez souvent plaisanté dans vos vidéos sur les placements de produits que vous dénoncez, très justement, avec humour, quid des vidéos faisant la promotion, en l'occurrence, d'un jeu vidéo, notamment la vidéo coproduite par Ubisoft, Assassin's Creed, qu'on écoutait à l'instant?
Eh bah, ben, disons que toute l'économie d'Internet est basée sur la publicité. Sans publicité, ça n'existerait pas. D'ailleurs, on pourra en parler avec Nicolas, qui a sans doute des trucs à dire là-dessus. Et donc, par exemple, cette vidéo a clairement été produite par Ubisoft, à tel point que je vais vous dire un petit secret. C'est qu'évidemment, qui dit publicité dit cachet, que j'ai touché pour cette vidéo, que j'ai entièrement réinvesti dans le budget pour faire une vidéo encore plus spectaculaire, parce qu'on n'avait pas les moyens de... Parce qu'il y a beaucoup de costumes dans cette vidéo, il y a une vraie production, etc. J'ai voulu passer une petite étape par rapport à mes vidéos faites à la maison. Donc j'ai totalement tout réinvesti, finalement c'est plus une pub, simplement un gros budget avec une belle vidéo.
Et elle fait 20 millions de vues.
Simplement payée par Ubisoft, et sans eux j'aurais pas fait cette vidéo. Donc tous les gens qui pointent du doigt ce sponsoring, en fait, je trouve ça un peu bête.
Cela étant, c'est mentionné lorsqu'on voit la vidéo, il est très clairement écrit que c'est une vidéo produite par Ubisoft. 20 millions de vues, vous attendiez à ce succès pour cette vidéo?
Non, pas du tout. Bah, j'avais fait une vidéo qui s'appelle Luigi Clash Mario, qui a aussi pas mal marché. Et donc je me suis dit, bon, bah, je sais pas, moi je fais les trucs au feeling. J'en suis vraiment ravi.
Mm-hmm. 19h24 sur France Culture.
Soft Power. L'alphabet numérique.
Sur France Culture. Ce soir, on s'intéresse... Qu'est-ce qu'il y a?
Je sais pas, j'aime bien votre style.
Ah oui, c'est un peu différent de ce qu'on fait sur YouTube, non?
Non, mais j'aime bien le flot de paroles sur France Culture. Salut à tous, bienvenue sur France Culture. Aujourd'hui, on parle de bouquins au maximum. C'est parti.
L'alphabet numérique, notre séquence consacrée au décryptage des internets, de leur mode, de leurs mots, de leur fonctionnement. Et on s'intéresse ce soir tout particulièrement aux YouTubeurs.
Dans mon spectacle, je parle de plein de trucs, un peu comme dans mes vidéos. Je parle de sujets qui nous concernent tous. Je parle un petit peu de ma vie aussi, notamment de mon métier un petit peu bizarre.
Ce qu'on appelle un YouTuber, tu vois. Alors dès que je dis ce mot, je fais toujours des petites guillemets comme ça. C'est un métier un peu spécial. Il y a plein de métiers où tu peux pas employer les guillemets. Tu vas faire, bah je me présente, c'est moi votre chirurgien. Ouais, je m'occupais personnellement de votre crève du cœur. Donc voilà, si tout se passe bien, à la fin vous devriez être vivant. Tu peux pas faire ça.
Alors un YouTuber, titre de cette séquence consacrée au décryptage des internets et du numérique, l'alphabet numérique. C'est quoi un YouTuber et comment on devient YouTuber, Norman?
Bah, tout le monde peut être YouTuber. En fait, il n'y a pas besoin d'atteindre un certain nombre de vues ou d'avoir un certain
succès. Il suffit de poster des vidéos sur YouTube.
Voilà, quelqu'un qui poste une vidéo qui fait une vue, on peut dire qu'il est YouTuber, hein, c'est lui qui décide. Tout le monde peut être rémunéré en faisant des vidéos sur YouTube. Ça s'appelle être YouTube Partner et ça existe depuis la création de ce site. À l'époque, c'était surtout les grandes chaînes et les grands groupes qui étaient des YouTube Partners. Et depuis quelques années seulement, il y a des indépendants, des gens comme moi par exemple, qui font tout seul et qui gagnent gagnent leur vie, ils sont YouTube partenaires tout seuls. Ça fait la grande différence. Donc c'est le fait de pouvoir vivre de ça, ça fait toute la différence. Parce qu'on peut s'y consacrer, et évidemment, ça crée un contenu beaucoup plus qualitatif que si on n'était que des motion makers du dimanche, quoi.
Comment on commence, je repose ma question, pour passer de 1 à, en l'occurrence, des millions de vues sur YouTube? Quels sont les, non pas les secrets, sans doute est-ce complexe de répondre à cette question, mais quels sont les moyens, la manière dont on parle sur YouTube?
C'est un grand chapitre qu'on ouvre. Il y a plein de choses à dire là-dessus, mais... En tout cas, il y a un truc qui est très cruel sur Internet, c'est que quelque chose qui n'intéresse pas les gens, ça ne buzz pas, tout simplement.
Donc, ça ne fait pas de vues, donc.
Voilà, c'est ça. C'est très rare d'avoir une vidéo extrêmement incroyable, spectaculaire, pleine de talent, qui fait zéro vue. Ça n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de petits youtubeurs qui font des choses qui sont intéressantes, mais peut-être pas assez nouvelles, pas assez originales pour faire ce qu'on appelle le buzz et trouver une viralité, quoi. Voilà. Donc moi j'ai fait le buzz sans faire exprès, entre guillemets. À l'époque, je faisais des vidéos dans un trio qui s'appelait Level Crew. Ça faisait pas beaucoup de vues, hein, 5000 vues par vidéo, et ça nous suffisait. C'était pour s'amuser qu'on faisait ça. Un jour, j'ai commencé à faire des vidéos tout seul dans le même but, hein, de m'amuser. Et là, ça a fait plusieurs millions de vues. Donc ça, tout d'un coup, ça un peu, j'ai un peu changé mes projets, et puis c'est devenu mon métier.
Mmh. YouTubeur, c'est surtout devenu un métier, mais aussi une marque de fabrique que YouTube forcément utilise, et notamment Google France. Plusieurs événements ont été organisés ces derniers mois, notamment pour pouvoir vous rassembler, pour que vous puissiez aller à la rencontre de vos fans dans la vraie vie, in real life. Qu'est-ce que ça fait finalement de passer de l'écran à la rencontre des fans? Et surtout, comment est-ce que YouTube vous drive sur cette rencontre-là et sur ces grands événements-là?
Alors, je sais pas... À quel événement vous faites référence en particulier?
Notamment Video City.
Ah pardon, ok, Video City, parce que moi, disons que j'ai la particularité de pouvoir rencontrer mes fans, entre guillemets, mm-hmm. de différentes façons, que ce soit dans les Zéniths ou dans les meet-up que j'organise personnellement à la FNAC, et puis aussi à Video City, Video City, rappelons-le, c'est un salon, le salon des youtubeurs, le premier salon des youtubeurs. Alors ça peut paraître, un détail, mais c'est très important. Parce que ça fait de YouTuber une sorte de métier à part entière. Parce que quand on parle de ça aux gens, ça ne les intéresse pas. Ils ont l'impression que c'est un passe-temps. Mm-hmm. Or, pas du tout. Quand il y a des gens qui font des millions d'euros, qui génèrent des millions de vues et qui rassemblent toute une génération de gens, c'est pas un détail. Et Video City, donc c'est un salon comme le salon du chocolat. Sauf que ce soit du chocolat, c'est des YouTubers.
Très mauvais exemple.
On n'en parle pas. Et bref, on y allait. Il y avait plein de viewers, hein, des internautes qui s'intéressent à nos vidéos.
Ceux qui vous regardent, ouais.
Qui nous regardent, qui étaient présents. Alors, c'est pas que le salon de YouTube, c'est aussi le salon de toutes les plateformes de vidéo, mais bon voilà.
À ce sujet, pourquoi YouTube et pourquoi pas Dailymotion, YouTube appartenant à Google?
Simplement parce que YouTube a beaucoup plus de succès. Moi à l'époque j'étais sur Dailymotion, j'ai grandi là-dessus, j'ai fait mes premières armes sur Dailymotion. J'ai rencontré aussi Cyprien par exemple, on s'est rencontré vraiment grâce YouTuber, à Dailymotion. Ouais. On s'est envoyé un message en disant tiens, tu fais des vidéos comme moi, on se rencontre, on fait des featuring. Donc j'ai rencontré pas mal de potes grâce à Dailymotion, je leur dois beaucoup. C'est un très bon site. Mais bon, quand je suis passé sur YouTube, évidemment, ça a eu plus de force de frappe. Aussi parce que YouTube, c'est vraiment mondial.
Pour être un bon YouTuber, il faut aussi amplifier sa conversation sur d'autres réseaux, notamment sur les réseaux sociaux. C'est aussi nécessaire.
Oui.
Vous avez, on le rappelle, 4 millions, plus de 4 millions de followers sur Twitter, par exemple.
Oui, il faut bien sûr être assez précis dans sa manière de communiquer. C'est un outil, mais parfois les gens disent Norman, le professionnel des réseaux sociaux. Pas vraiment, en fait. Moi, je ne sais pas plus qu'un autre utiliser les réseaux sociaux.
Vous faites plus au feeling, c'est plus spontané, vous pensez?
Oui, c'est spontané.
Il n'y a pas de community manager derrière?
Non, il n'y a que moi. Disons que j'ai appris plein de choses et maintenant, il y a des choses que je fais qui me semblent évidentes. Mais moi, mon rôle, c'est de faire des bonnes vidéos marrantes. Après, si elles plaisent, ça fait beaucoup de vues. Si elles plaisent moins, ça fait moins de vues. C'est pas parce qu'on utilise extrêmement bien Facebook qu'une vidéo va plaire plus qu'une autre.
Mmh. Question nerf de la guerre. Il y a quand même une question de rémunération derrière.
Parlons argent, parlons thunes.
Oui, parlons argent quand même un peu dans cette émission à un moment donné. On connaît le coût par minute des vues. On est à peu près à 1000 euros la minute. Donc, on peut multiplier en fonction du nombre de vues sur les vidéos et se donner à peu près une idée, un montant de combien vous rapporte une vidéo.
1000 euros par minute.
1000 euros par minute, 800 euros par minute.
C'est un chiffre que vous m'apprenez.
Mmh. Vous ne le confirmez pas.
Une vidéo qui fait 8 vues, Elle fait une minute, on a 1 000 euros.
Non, alors c'est pas ça. Je suis très mauvaise en mathématiques, il faut le savoir quand même.
Bon, alors moi je vais
alors,
vous,
donnez-nous
je vais,
les,
je vais
donnez-nous
répondre, les bons chiffres. Je vais prendre les rênes. Les journalistes aiment bien dire qu'on gagne 1 000 euros pour 1 million de vues. Parce que c'est un chiffre, je sais pas, qui rassure les gens. Parce que en fait, ce sont des campagnes publicitaires qui sont très aléatoires. Donc on peut gagner 1 000 euros, comme 2 000 euros, comme 50 euros. C'est très aléatoire. Mais si on veut faire une moyenne, ça peut ressembler à ça, par exemple. Mais c'est pas par rapport à la durée de la vidéo, mais c'est plus par rapport au nombre de vues, au nombre d'affichages de publicité avant la vidéo.
Ben voilà, merci, la vérité est rétablie.
Dans un entretien accordé au Monde, tout récemment, vous disiez les youtubeurs sont les artistes les plus proches de leurs fans. Avec les commentaires de nos vidéos et les réseaux sociaux, on est connecté à eux, ils sont dans notre poche. Je me réveille, je tweete, ils ont mon intimité. Il n'y a presque plus de barrière entre vie privée et vie publique. C'est donc un travail à temps plein. Est-ce qu'on n'en a pas assez quelquefois?
Disons que je ne peux pas mépriser les gens qui ont fait que ma vie est extraordinaire pour moi aujourd'hui. Donc je ne peux pas répondre que j'en ai assez. Mais je pense qu'il faut faire une vraie distinction entre la vie publique et la vie privée. Bizarrement, dans mon métier, en fait, j'utilise ma vie privée pour raconter des choses. En racontant ma vie, je raconte la vie de tout le monde, en fait, indirectement. Et c'est pour ça qu'ils regardent ce que je fais.
Au fond, c'est aussi une fausse vie privée, d'une certaine manière. C'est une vie privée...
Oui, la barrière est un peu floue comme ça. Mais il y a certaines choses que je garde que pour moi. J'ai ma vie familiale, ma vie à moi. Et parfois, en effet, il faut savoir mettre les barrières, couper tout, couper les ordinateurs et rester dans sa vie perso, quoi.
Mais est-ce que les followers, ceux qui vous regardent, est-ce qu'ils partagent une expérience ou est-ce que c'est juste de l'entertainment? Est-ce qu'ils sont partie prenante d'une expérience ou pas? Ça, c'est une question très France Culture.
Je vais peut-être prendre une calculatrice pour répondre parce que là, j'ai pas... Je sais pas, ce que je peux vous dire, c'est que quand, par exemple, je parle d'un sujet qui est peut-être trop intime, où ils se semblent pas, ils ont pas l'impression d'être trop concernés, là, ils lâchent. Ça ne les intéresse pas, vous voyez. Par exemple, j'ai fait ma dernière vidéo, ça s'appelle Les inventions imaginaires. J'essaie d'inventer des sortes de trucs qui seraient utiles dans la vie de tous les jours, par exemple un devinateur de cadeaux.
Oui, une manière de baisser le son d'une personne voilà. Avec un petit bouton, j'ai vu ça.
Exactement, tout à fait. Là, quand c'est une sorte de petite fantaisie dans ma tête, une vidéo que j'aime beaucoup, qui a plu aux gens, mais elle a été moins regardée que les autres, parce que les gens vont être attirés par quelque chose qui reflète leur vie. Si je fais une vidéo, par exemple, qui parle des chats, ils vont dire « Tiens, moi aussi j'ai un chat, qu'est-ce qu'il raconte sur ma vie ?» Et quand je parle des inventions imaginaires, je dis rien sur leur vie. Et les gens sont, comme moi, assez égocentriques. Ils veulent qu'on parle de leur vie en permanence. Donc voilà pourquoi cette vidéo est moins virale que les autres.
5 étoiles, en 2011, vous aviez produit, fait cette chanson avec d'autres youtubeurs, Cyprien, Hugo, Kemar, Sam Durewin, etc. C'est un souvenir aussi pour vous.
Ça, complètement.
C'est tout proche et en même temps déjà très, très lointain finalement.
Ouais, vous avez raison. À l'époque, on n'était pas youtubeurs, on était donc entre guillemets motion makers, parce que sur le site Dailymotion, ça s'appelle comme ça. Et c'était la première fois qu'on se regroupait tous ensemble avec plein de vidéastes d'internet pour faire une petite chanson collective que j'avais composée, je le précise. Et voilà, on s'est bien amusé à le faire. Et 5 étoiles, c'est en rapport à la notation des gens sur Dailymotion. En fonction de leur avis, ils notent entre 0 et 5 étoiles. Et à l'époque, ça avait plutôt marché.
Youtuber, c'était le sujet de l'alphabet numérique. Ce soir, vous pouvez le retrouver sur le site dédié qui rassemble l'ensemble des mots que nous traitons chaque semaine dans l'alphabet numérique, alphabetnumérique.com, ainsi que le podcast sur franceculture.com. Et justement, pour terminer cette séquence, 5 étoiles, Norman, Cyprien, Hugo, Kemar, Sam de Rewin en 2011.
Comment par finir ton chocolat chaud au kiwi cowboy en 3D dans ta Game Boy. Tu mets 5 étoiles, je me supprime plus d'admirer ces vidéos qui déchirent. Tu mets 5 étoiles pour ce clip de gangsta qui tu mets à ton pyjama. Tu mets 5 étoiles, même si on se couche tard le soir, même si on finit par nous le voir. Tu mets 5 étoiles.
Mon existence se termine en point com, se mesure en banque passante, se calcule en nombre de com. J'ai pas d'idées à faire passer, que des vidéos à faire buzzer. Je passe plus de temps à la télé que je passe de temps à la maté. Mon style est en HD, mes blagues sont en Blu-ray. Tu me kiffes tellement en vrai que je fais ramer ton PC. Quand je lis vos emails, l'histoire c'est toujours la même. Ça commence par Monsieur Dream, je t'aime, ça finit et la corbeille. Depuis que je suis né, du HTML coule dans mes veines. Je suis plus lol du web d'après une étude américaine. Ma vie est démentielle, mais c'est surtout virtuel. Je suis devenu ce que je suis depuis la DSL avec AOL. J'ai grandi avec le net, du caramel dans ma sucette, du MSN dans mes chaussettes, du FTP dans ma poussette. Alors arrête.
arrête, je savais pas parler, je faisais déjà sur internet.
Voilà, 5 étoiles, c'est Soft Power jusqu'à 20h, magazine des industries créatives et du numérique de France Culture. Vous pouvez vous abonner à nos deux podcasts, Soft Power et l'alphabet numérique, sur le site franceculture.fr.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Avec nous jusqu'à 20h, Norman. Norman fait des vidéos, Norman Tavo fait des vidéos entre guillemets, et Nicolas Prinsen, qui était conseiller numérique de Nicolas Sarkozy, qui lance Gloze, une start-up dédiée au livre numérique, sujet de Soft Power ce soir. On va se concentrer avec vous sur ce sujet, et puis Norman, vous pourrez réagir.
Avec plaisir.
Éventuellement.
Moi, j'adore réagir.
Et puis surtout nous parler des livres que vous ne lisez peut-être pas.
J'en ai lu 8.
8, bah, vous l'avez dit d'ailleurs, il y en a quelques-uns que vous avez critiqués sur YouTube.
Ah bon? Ah
oui. Tu maltraites les livres dans tes sketchs, j'ai remarqué ça.
On va en parler, c'est parti.
Le livre et son futur à l'heure numérique, Nicolas Prinsen, qu'est-ce qui va changer selon vous? La distribution, comment le numérique va être... source d'annotations, de livres augmentés, de livres enrichis, le mobile, la tablette, l'ordinateur, quel sera le bon appareil pour les lire? Comment vous voyez cet avenir? Et peut-être première question, on avait annoncé que le livre numérique allait dominer le marché très rapidement. Or, c'est pas le cas. Aux États-Unis, ça a plafonné. En France, ça ne décolle pas vraiment. Que s'est-il passé? Comment expliquer cela et comment les choses vont évoluer selon vous?
Alors le livre numérique, en effet, en France, c'est entre 4 et 5% des ventes de livres, donc c'est tout petit. Aux États-Unis, c'est quand même déjà beaucoup plus, c'est presque 30% de la vente de livres.
En particulier selon les secteurs, il y a des secteurs...
Et selon les secteurs, selon les genres de livres. Mais en tout cas, c'est très significatif quand même. Et la numérisation du livre est en cours, ce qui ne veut pas dire que le livre numérique va remplacer le livre physique. Ça, honnêtement, je pense que moi, j'y ai jamais cru en tout cas. Mais ça veut dire quand même que ça va progresser et que la lecture... de livres prend pied sur de nouveaux appareils comme les smartphones. En effet, nous, on a été très surpris de voir que, alors que Gloze est sur les ordinateurs, les smartphones et les tablettes, c'est de plus en plus vers les smartphones que les gens vont pour lire. Les écrans sont de plus en plus grands et surtout, on l'a toujours sur soi. Et donc, la lecture sur iPhone notamment, est en train d'exploser et c'est ce que nous voyons et c'est ce que voient nos concurrents également.
Donc pour vous, le mobile, le smartphone est ou pourrait être l'appareil de la lecture de livres?
Je le pense, en tout cas c'est ce que je constate quand je vois l'audience.
Beaucoup plus qu'une tablette, beaucoup plus qu'un Kindle, etc.
Alors déjà, il faut voir qu'en effet, il y a deux générations d'appareils qui permettent la lecture numérique. La première, ça a été la génération des liseuses à encre électronique. C'est par exemple le Kindle ou le Kobo.
Première génération.
Première génération. Et maintenant, on voit que la lecture devient complètement ubiquitaire sur tous les formats numériques et les écrans digitaux, par exemple les smartphones. Je pense que l'erreur de la première génération de services, ça a été de penser le livre numérique exactement comme un livre physique. C'est-à-dire, on prend un livre physique, on le numérise et ça doit être à peu près la même expérience. Je pense que la valeur ajoutée d'un Kindle à encre électronique par rapport à un livre physique, en fait, elle est très ténue, elle est assez petite.
Donc pas de raison de basculer complètement.
Pas vrai, autre que un peu plus de mobilité, surtout le fait de pouvoir amener 1000 livres quelque part. Donc typiquement, le cas d'usage d'un Kindle, c'est...
Pour en lire un quart.
Et pour en lire un quart, c'est quand je vais en vacances sur la plage. Voilà, je pense que le cas d'usage, c'est vraiment, je vais à la plage, je pars en vacances, j'amène pas 10 livres sur moi. Mais bon, il y a peu de gens qui lisent 10 livres en 15 semaines de vacances.
Donc, en 15 semaines peut-être, en 15 jours peut-être.
En 15 jours, pardon. Ouais. En revanche...
Norman, il lit 15 livres en 15 semaines.
Moi, je dis 8, pas plus.
Oui, dans toute votre vie. Hein.
Toute ma vie.
Hein.
Ouais. Il faudra nous donner la liste, ça m'intéresse de savoir. Pour les recommander à nos lecteurs.
Il a lu Prince, il a lu
mais moi, je voulais dire
Vendredi, petit, ou les petit, Sauvages.
Et Garfield. Petite info supplémentaire, je crois qu'aussi beaucoup de gens se sont mis à lire sur les liseuses, parce qu'il y a des scientifiques qui nous font croire que les émanations de lumière sur les tablettes, c'est dangereux pour l'œil, contrairement aux liseuses qui sont à encre.
Alors ça, c'est rigolo parce que nous, on voit que les gens qui commencent à lire sur leur smartphone ne retournent plus sur l'encre électronique. Et en fait, c'est moins une question de confort de lecture qu'une question d'accessibilité. Ouais. Le smartphone, il est toujours sur moi. Et je crois que le grand avantage de la lecture numérique, c'est que d'un seul coup, ça crée des moments de lecture, des opportunités de lecture qu'on n'avait pas.
Parce même que quand le smartphone, on n'a pas son livre avec soi, on a
mais
son téléphone.
Le nombre de témoignages qu'on a d'utilisateurs qui nous disent « J'ai beau avoir un Kindle chez moi, il a beau être sur la table à 2 mètres de mon lit ». Mon smartphone, je l'ai toujours sur moi, sur ma table de nuit.
Ouais, je dors avec lui. Je dors avec lui.
Et c'est un peu le même débat que le livre de poche ou le grand format. Le livre de poche est un peu moins confortable, mais vous voyez quand même que le livre de poche est très lu.
Alors au fond, vous croyez au livre social, on pourrait dire, c'est-à-dire un livre qui communique, où on peut annoter, augmenter, les livres enrichis, le livre qu'on va partager et qu'on va envoyer. On va voir ce que ses amis lisent et on va partager avec eux ses lectures.
Le grand avantage du numérique, ce sont les innovations que ça apporte à la consommation de contenu. Donc par exemple le livre, en effet, ce qui est intéressant avec le livre numérique, c'est pas d'essayer de reproduire le livre papier, c'est de tirer parti de tout ce qu'offre Internet. Et ce qu'offre Internet, c'est notamment le côté social, c'est-à-dire le fait de pouvoir lire un livre et de le partager avec ses amis. Et en effet, la vision de Glose, c'est que le livre peut être socialisé, c'est-à-dire que quand on lit un livre, on peut le lire seul, mais si on le souhaite, on peut être connecté avec les autres lecteurs d'un même livre et on peut même échanger avec eux. Je pense que le livre lui-même, comme d'autres formats de contenu, les vidéos, les photos, peut être l'objet d'un réseau social en soi. Il n'y a pas de raison aujourd'hui, alors qu'on peut le faire, de connecter les personnes qui lisent un même livre pour qu'elles puissent échanger.
Marjorie Paillon.
Un exemple justement aussi d'engagement, en tout cas de participation et d'éléments de discussion qui peut vous rapprocher tous les deux, c'est le phénomène des booktubers finalement, puisque lire des livres, ça peut créer des millions de vues sur YouTube là aussi. Alors je sais que Norman va se gausser parce que c'est pas du tout les mêmes chiffres que sur sa chaîne à lui, mais il y a par exemple un booktuber américain, un lecteur absolument. je vais pas m'attarder sur le nombre de vues ou de minutes en tout cas, mais un des booktubeurs les plus connus est américain, il s'appelle Jesse the Reader, Jesse le lecteur, jusque là tout va bien, il cumule 120 000 abonnés pour 5,6 millions de vues sur YouTube évidemment. Le phénomène il est apparu il y a 3-4 ans à peu près, et puis surtout il drive beaucoup de membres dans la communauté hispanique. Visiblement c'est à la fois aux États-Unis et à la fois justement dans les pays latinos où on lit le plus, où on a surtout envie le plus de partager, d'engager la conversation autour du livre. Ça arrive aussi en France, là aussi, le phénomène commence à se développer. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez capitaliser, par exemple ?
Énormément, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'en France, alors les booktubeurs sont en fait des booktubeuses pour l'immense majorité, et elles ont un pouvoir d'influence très fort, même si elles font pas le nombre de vues de Norman, mais elles font entre 10, 20, 30 000 vues par vidéo, elles ont 20 000, 30 000 abonnés. Mais ce sont des personnes comme Nine, les lectures de Nine, qui est à Toulon, Margot Liseuse, qu'on aime beaucoup, Justine de Ferry Neverland, Marine de Tartine aux Pommes, enfin il y en a tout un tas.
Marine de Tartine aux Pommes, on dirait du Norman, celle-là.
Exactement, mais ce sont des personnes qui partagent, en fait, ce qu'il y a de plus précieux dans la promotion des livres, c'est l'enthousiasme. Et elles font des vidéos qui parfois durent 10 minutes et que les gens regardent jusqu'au bout, parce qu'elles partent d'un livre qu'elles aiment, parfois elles lancent des défis de lecture à leur audience, et elles font un travail absolument formidable qui dépoussière un petit peu les codes de la promotion des livres. Il faut bien voir que les livres sont de plus en plus absents dans les médias traditionnels, il y a de moins en moins d'émissions littéraires à la télévision, et c'est sur Internet que prend place de nouveaux acteurs qui veulent faire la promotion des livres parce que ce sont des passionnés.
Parmi les booktubeurs célèbres, on peut citer aussi John Green, Mathias en Argentine, Christine Rizzio, Jesse, Raline, Ariel Bissette, etc., etc.
Alors ce qui est intéressant,
très nombreuses
John Green,
vues au John Green qui à la fois promeut ses propres livres.
Parce que John Green c'est un auteur et ça c'est super important. C'est que, je voulais le dire, le rapport qu'a Norman avec ses fans, dont je suis, c'est le type de rapport qu'un créateur doit avoir aujourd'hui, doit commencer à essayer de créer. Il ne s'agit pas de lancer une œuvre au milieu de nulle part, à moins d'avoir vraiment un chef-d'œuvre exceptionnel.
Créer une marque, donc.
Il faut aussi créer un dialogue, parce que l'univers de contenu est tellement vaste et ne cesse d'augmenter tous les jours que c'est important de créer ce lien personnel avec les gens qui vont passer du temps avec vous.
Norman, le booktuber, c'est une espèce en voie de disparition, dégénérée, ou au contraire, c'est l'avenir du youtubeur?
Non, mais je trouve ça très intéressant. Bah, je pense que...
Vous devriez vous y mettre, hein, au booktuber. Ouais. Je pense que ça pourrait être une sous-chaîne, c'est Norman le lecteur.
Pourquoi pas, très bonne idée.
Nous, on peut la faire,
je pense que c'est aussi les gens qui regardent ce genre de vidéos.
On peut la faire ensemble avec Glose. Voilà.
Avec plaisir.
On organise des startups ici.
Toujours dans la plaisanterie. Jamais.
Mais pas du tout, c'est très sérieux ce qu'on fait ici.
Je pense que c'est aussi une manière pour les internautes qui regardent ce genre de vidéos de voir les avis, en fait, une sorte de test, comme c'est autre chose, mais les gens qui regardent les vidéos de gaming, c'est-à-dire les vidéos de gens qui jouent aux jeux vidéo, c'est aussi une manière de dire, tiens, est-ce que ce jeu est assez intéressant pour que j'achète? À mon avis, les gens qui regardent les vidéos de booktubeurs, c'est aussi pour savoir, est-ce que ce livre est assez intéressant pour que je le lise? Donc c'est la grande différence aussi.
Et c'est vrai, je pense que aujourd'hui on vit une heure, et c'est pas encore le cas dans le livre, et c'est ce qu'on essaie de faire notamment à Glose, c'est que le contenu lui seul ne suffit pas, le contenu détermine une expérience. de consommation de ce contenu. Et le contenu et la conversation sur ce contenu, que ce soit une photo, une vidéo ou un livre, doivent être de plus en plus proches. Et la personne, notamment dans un univers mobile, a envie d'aller dans un seul endroit, en l'occurrence c'est ce qu'on essaie de faire dans le livre, à la fois pour lire, pour échanger, pour rentrer en contact avec d'autres personnes qui pensent comme elle ou comme lui.
Je sais que je vais vous décevoir, mais je vais encore parler sous, parce que justement, cette capacité à capter justement cette attention, cette discussion, ça peut être aussi une forme de monétisation assez intéressante pour les maisons d'édition. Par exemple, c'est ce qui se passe avec les booktubeurs aujourd'hui. Ils sont justement rattrapés par de nombreuses maisons d'édition pour être un peu leur ambassadeur finalement en ligne. Est-ce que chez Glose, on investira aussi dans ces prescripteurs?
Nous, on est libraires, c'est-à-dire que nous, on vend des livres. Si vous venez sur Glose, c'est pour éventuellement commencer à lire un livre gratuitement. Vous pouvez commencer à lire tous les livres gratuitement.
Jusqu'à combien de pages?
Jusqu'à 10%, c'est-à-dire en gros le premier chapitre, voire au-delà. Et beaucoup de gens viennent pour lire gratuitement, pour découvrir un livre et l'acheter chez nous ou ailleurs. Mais en tout cas, il y a des millions de pages en lecture disponibles gratuites. Ce qui est intéressant, c'est que la promotion du livre est en train de complètement se transformer. Nous, on est uniquement libraire, mais c'est vrai que les booktubeuses sont très sollicitées par les maisons d'édition qui envoient leurs livres. Ce qui est important, et c'est comme Norman, elles gardent une liberté créative totale. Et si elles doivent dire du mal de quelque chose, elles le font. Elles ne trichent pas avec leur nature, sinon elles perdent leur audience. Et c'est ça qui est bien.
Puisqu'on parle de modèle économique, il y a un modèle économique auquel on a pensé et qui fonctionne déjà très très bien dans la musique. C'est le modèle Spotify, Deezer, Pandora. Dans le cinéma et les séries télévisées, il y a le modèle Netflix. Dans le livre, on avait imaginé que des systèmes de type Oyster, qui a été racheté d'ailleurs à la casse par Google récemment, les difficultés de Scribe. Scribe montre aussi que ce modèle d'abonnement illimité est difficile pour le livre, même si Amazon Prime est peut-être une solution plus positive et en tout cas qui fonctionne mieux. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de grande société qui soit devenue le Spotify du livre ou le Netflix du livre?
Alors les sociétés de technologie qui arrivent dans l'univers de la culture essayent en général de créer des modèles d'abonnement pour baisser les prix. Et c'est ce qui a été fait dans de nombreuses industries. Il y en a qui essaient dans le monde du livre, je crée un abonnement à 9 euros par mois et vous avez tous les livres gratuits. Pourquoi ça ne marche pas dans le monde du livre? Pour deux raisons essentielles. Premièrement, parce qu'il y a une limite au nombre de livres que vous pouvez lire dans un mois. Alors vous allez regarder beaucoup plus de vidéos, vous allez écouter beaucoup plus de musique et donc le besoin du lecteur est quand même moindre. Deuxièmement, parce qu'il y a un problème de modèle économique. C'est que toutes les entreprises que vous citez dans le monde du livre ont adopté des modèles économiques qui sont totalement suicidaires et qui ne leur permettent pas de survivre. Et les éditeurs, et je pense qu'ils ont raison, essayent de maintenir un prix du livre qui permet de financer la chaîne du livre, et notamment les auteurs. Ce n'est pas le cas pour les autres modèles. L'analyse économique, on pourrait la faire, mais Netflix, Spotify et Oyster ou Scribd dans le monde du livre, ça n'est pas du tout le même modèle économique. Ça marche dans la vidéo, parce que c'est des contrats de licence. Ça marche dans la musique, parce que c'est du partage de revenus. Ça ne marche pas du tout dans le livre, parce qu'un livre qui se vend à sa sortie 20 ou 15 euros, eh ben, il ne va pas passer dans un abonnement illimité.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
France Culture, 19h49, nous sommes avec Norman, youtubeur, ainsi que Nicolas Prinsen, fondateur de Glose, pour parler maintenant des réseaux sociaux, sujet qui vous réunit tous les deux aussi. Pour l'un et pour l'autre, une question, le livre sur les réseaux sociaux, comment ça se partage, comment ça évolue, et surtout, peut-être première question, comment les réseaux sociaux eux-mêmes évoluent à travers des nouvelles générations finalement de réseaux sociaux?
Alors c'est super Nicolas intéressant Prinsen. Parce que moi je pense qu'il y a vraiment deux générations de réseaux sociaux. Il y a une première génération, c'est Facebook et Twitter, où toute l'importance c'était la connexion entre les gens. C'était vraiment basé sur les gens. Quelle que soit la chose qu'ils partagent, ce qui est important c'est qu'ils partagent. Et puis il y a une deuxième génération qui est en train d'arriver, où on voit qu'il y a différents comportements, et moi j'en distinguerai trois. Il y a premièrement les services de messagerie pure. C'est les WhatsApp, c'est les Facebook Messenger. Ce sont des services
aussi, ouais.
Exactement, qui existent uniquement pour que nous puissions échanger. Et Messenger était initialement dans Facebook et c'est sorti de Facebook.
Même si on a des contenus, c'est le cas de Snapchat par exemple, avec désormais des vrais contenus ajoutés.
Absolument, avec beaucoup de créativité. Il y a une deuxième génération de services, c'est ce qu'on appelle en anglais les publishing networks, c'est-à-dire les réseaux de créativité en vérité, qui sont des plateformes comme SoundCloud dans la musique, comme Medium dans les blogs, qui permettent... qui permettent à des gens de venir, de créer des contenus, de les partager et de les consommer derrière. C'est vraiment des plateformes de discussion et c'est aussi des réseaux sociaux. Et puis troisièmement, il y a des services qui sont des services de distribution de contenu culturel pur, comme Spotify, comme Netflix ou comme Glose, où le réseau social émerge du contenu lui-même. C'est-à-dire, c'est parce que les gens consomment le même morceau de musique, regardent la même vidéo, qu'ils vont commencer à échanger entre eux. Et je pense qu'il y a des différences de dynamique très fortes entre les trois. Gloze rentre dans la troisième catégorie, c'est-à-dire qu'on part du livre, on part vraiment du contenu, et on se dit les personnes qui vont lire le même livre vont vouloir échanger.
Et Norman, lui, il est dans la deuxième catégorie. On vous voit quasiment ébahi, presque admiratif, oui, en écoutant Nicolas Prinsen.
Voilà, exactement. Ah, j'arrive pas à cacher mes émotions. Non, mais je savais pas tout ça. Vraiment, je savais pas.
YouTube, c'est un truc assez, ça marche assez bien chez les jeunes. Catégories.
Le mec fait des catégories. ben voilà, en tout cas, moi, j'utilise ça, tout ça au feeling, mais c'est intéressant, vraiment.
Non, parce que toi, t'es un créateur sur une plateforme qui t'a permis, qui a complètement baissé la barrière de la créativité et surtout de la publication. Et c'est grâce à ça que t'as pu créer ta communauté. Et dans le monde du livre, il va se passer la même chose. C'est-à-dire que des gens qui aujourd'hui ne sont peut-être pas connus peuvent, grâce à des réseaux qui ouvrent, font tomber les barrières entre les lecteurs, créer des communautés autour d'eux. En tout cas, c'est le but de ce qu'on essaie de faire.
Notre réaction ?
Non, je sais que moi, dans mon cas, quand je sors, par exemple, une nouvelle vidéo, j'aime bien aller chercher les gens qui sont sur différents... Parce qu'il y a des gens qui sont têtus, il y a des gens qui vont dire « moi, je suis que Snapchat, pour aucune raison ». Et bien, il faut aussi aller les chercher. Donc moi, dès que je sors une nouvelle vidéo, je l'annonce sur Snapchat, en vidéo, en photo, Instagram, Twitter, Facebook. Et
en même temps, on ne parle pas de la même manière sur ces différents réseaux sociaux.
Ouais, il y a tout le temps une façon de faire.
Ça va être quoi les différentes pour vous ?
Bah disons que c'est des petits trucs qu'il faut savoir du métier.
Mais par exemple,
vous voulez vraiment les détails.
Quelques petits secrets, ouais.
Mais je sais pas, par exemple, quand je fais un snap vidéo, j'aime bien, je me montre, je fais pas une simple photo, je me montre, c'est moi qui ai fait cette vidéo, je montre mon visage. Par exemple, le simple fait de montrer son visage dans une photo Instagram ou sur Snapchat, c'est une sorte de signature sur Internet. Dès que je fais une boutade sur Internet, j'ai deux possibilités. Soit je prends une photo, et je le mets, auquel cas n'importe qui aurait pu la faire. Ou soit je me mets acteur de la photo, je me mets dedans. Et là, ça veut dire, regardez, c'est vraiment moi qui ai trouvé cette idée, cette blague, et je la signe presque de mon visage.
Et Facebook, Twitter, pour
vous, je viens de donner un petit tips, une astuce, et c'est gratuit, c'est cadeau, il n'y a pas besoin de me payer.
Et sur Facebook, Twitter, ça serait différent, ce moment-là?
Oui, Twitter, c'est bien connu, hein, il y a un certain nombre de caractères, donc il faut être intéressant en très peu de mots. Facebook, c'est pareil. Tout ce qui est un peu long, les gens sont très, ils ont besoin de consommer rapidement. C'est très rapide sur le net. Dès qu'une phrase fait plus de 10 mots, ça intéresse plus les gens. Il faut être assez catchy. Voilà, il y a plein de trucs à savoir.
Vous connaissez les Insta poètes, ça vous dit quelque chose?
Tout est dans le titre. Donc,
c'est des poètes qui sont sur Instagram. C'est un phénomène assez nouveau, intéressant, puisque ça a recréé de la poésie avec beaucoup de succès, Nicolas Prinsen.
Ce que je pense, ce qui me paraît vraiment très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il faut voir que les gens qui consomment de la culture sur Internet sont aussi eux-mêmes des créateurs. Et on regarde souvent les réseaux sociaux d'un petit peu haut. On dit que ce sont des outils pour les ados, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est le niveau de créativité qu'il y a à l'intérieur, même pour le consommateur lambda qui n'est pas un créatif avec des millions de vues. C'est-à-dire que les gens, de plus en plus, quand ils consomment quelque chose, que ce soit un livre, une vidéo, une photo ou autre chose qu'ils regardent sur Internet, ils aiment bien faire une réaction créative. Et donc, ça ne suffit plus de jouer au jeu vidéo et de consommer un jeu vidéo. On se filme en train de jouer un jeu vidéo pour ensuite le diffuser. Et je crois que ce serait manquer une grande partie de ce qui fait la richesse d'Internet que de ne pas comprendre que ça va dans les deux sens.
Il y a une bonne expérience.
Consommation de culture, création de culture.
Il y a une bonne expérience, celle de Infinite Jest, le livre de David Foster Wallace, dont on fête d'ailleurs les 20 ans et qui fait ce week-end la une du supplément littéraire du New York Times. Et il y a eu une lecture collective appelée Infinite Summer où on a lu le livre collectivement sur Internet et ça a créé ce mouvement qui fait que cet auteur, David Foster Wallace, qui s'est suicidé depuis, est devenu une sorte d'icône non seulement dans le monde littéraire mais aussi dans le monde du numérique.
C'est très vrai. Mais vous savez, en fait, quand on parle des réseaux sociaux et du livre, on a l'impression qu'on parle de deux choses totalement opposées. Mais en vérité, l'origine du livre, c'est dans le social. Le livre à l'origine, c'était un exemplaire qui est partagé, même lu à l'oral, à une assemblée. C'est ça l'origine du livre avant que l'ère industrielle arrive. Et on n'est pas du tout en tricherie avec l'esprit même d'un livre quand on le rend social. C'est complètement inscrit dans le livre que c'est une discussion, un dialogue intime entre un lecteur et un auteur, mais au-delà de ça, une expérience qui se partage.
On parle justement de vos fans et de cette capacité de mobilisation et d'engagement, que ce soit sur YouTube d'un côté ou que ce soit via le livre numérique et socialisé de l'autre. Mais est-ce que c'est aussi une façon d'aller recruter de nouveaux lecteurs, de nouveaux créateurs, d'engager la conversation avec peut-être d'autres membres qui ne se seraient pas intéressés au livre par ailleurs? Est-ce que par exemple, Norman pourrait s'intéresser au livre via Gloze?
Bah complètement, Gloz, on est en train d'essayer aux États-Unis, parce que là pour le coup on est beaucoup plus avancé, de discuter notamment avec des youtubeurs pour leur dire, bah, vous savez, vous pouvez créer un groupe de lecture si ça vous intéresse, si ça rentre dans la ligne de ce qu'attendent les gens, où vous conseillez des livres et puis quand vous les conseillez, bah, on fait un truc ensemble, etc. Ce qui est très important, c'est l'aspect générationnel de ce qu'on est en train de se dire. C'est-à-dire qu'on a fait par exemple un test où il y a une super prof qui nous a contactés pour qu'on teste Gloz, donc plateforme de lecture sociale, dans sa classe. C'était des 6e et des 5e, elle s'appelle Judith, je la salue, elle est dans le collège des Collines, à côté de Grenoble. Et ce que nous a dit Judith, c'est la chose suivante, elle a dit « J'ai envie de stimuler ma classe, j'ai créé une classe bouquin pour que les enfants lisent ». Et on a fait un test avec elle, ça a été un carton, parce que les enfants lisaient et en même temps pouvaient échanger sur les livres qu'ils lisaient avec leurs camarades et avec leurs profs. Ça a rendu l'expérience beaucoup plus vivante et elle était extrêmement heureuse du test. Et comme vous l'imaginez, nous aussi, parce que c'est le but de ce qu'on essaie de faire chez Gloz, c'est vraiment de démocratiser l'accès à la lecture et de décomplexer un petit peu toute une génération qui peut avoir peur de ce média-là.
Norman, quel est votre rapport à la lecture? On vous voit dans une vidéo lisant un livre de Michel Onfray et c'est assez... Il y a une sorte d'ironie là-dedans.
C'est dans quelle vidéo?
C'est une vidéo.
Moi, je peux la raconter, c'est celle où tu es en train de lire un livre de Michel Onfray, je crois que c'est de l'Instagram, et puis en fait, ça déguise le fait que tu es en train de jouer à un jeu vidéo à l'intérieur du livre.
Ah oui, d'accord.
Et j'utilise ça dans mes présentations, figure-toi, avant qu'on se rencontre, parce que c'est une parfaite image, je trouve, de l'idée que le livre a besoin d'évoluer pour se mettre au niveau.
Alors on ne sait pas si c'est qu'il a honte du jeu vidéo ou s'il a honte du livre, les deux possibilités.
Non, c'est qu'il faut créer un monde dans lequel le livre est aussi excitant que d'autres formes de médias à la gratification beaucoup plus immédiate, comme le jeu vidéo par exemple.
Bah déjà, je suis hyper flatté d'être utile à titre d'exemple pour raconter des choses. Je crois que ce bouquin à l'époque ne m'appartenait pas. T'es vraiment à mon voisin du devant. Et moi, quant à moi, je jouais à Pokémon sur DS, qui est vraiment un autre business. Et d'où ce petit Vine qu'on a improvisé. Voilà. Par contre, je peux vous parler de mes Pokémon. Alors, j'ai Roudoudou, Pikachu, level 12.
Et, il y a des livres Pokémon.
Et puis aussi de votre week-end sur Twitter. Vous avez expliqué ce qu'était votre week-end un peu rétrograde ce week-end.
Je me rappelle plus que j'ai dit, j'ai des trucs, je les oublie.
Des vieux jeux vidéo, des vieux.
Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bah, j'ai fait l'acquisition d'une PS1. Donc, je suis venu pour parler de jeux vidéo, hein. Je suis désolé. C'est une vieille console de jeux vidéo et je pense que je vais en faire une petite.
Vidéo.
Une petite vidéo, justement. Voilà.
Ça nous rappelle justement ce passé d'Internet. Écoutez ça.
Très belle transition.
On l'icos et sur l'icos. Se donner rancard le soir sur MSN pour s'envoyer des whiz. Les téléphones n'avaient pas de 4G, c'était des téléphones pour téléphoner et faire de la muscu. C'était l'époque des connexions pourries et il y avait des boules dans nos souris. Il n'y avait pas Tinder ni même Adopte un mec.
On vous entend chanter quasiment. Là.
Ouais, on peut dire ça, ouais. C'est vrai.
C'était quoi, hein?
Donc cette chanson, c'est Internet de l'époque. Un petit morceau que j'ai écrit et qui a été composé par mon ami PV Nova, talent au max. Voilà, qui parle en fait des débuts d'Internet, des balbutiements d'Internet, du moins en France, parce que.
Oui.
Ça, c'est moi aussi qui parle. Je suis partout là.
Vous chantiez, vous parliez, vous êtes même
c'est
au micro
succès,
sur France Culture.
Incroyable. Double dose de Norman.
Voilà, donc vous êtes au Zénith de Toulouse, au Zénith de Nancy tout prochainement, ensuite au Mans, à Nantes, à La Rochelle, à Tours, à Paris le 4 et le 23 avril, au rond-point puis à La Cigale. C'est la tournée de Norman. Merci d'avoir été l'invité de Soft.
Merci de m'avoir invité, c'était un vrai plaisir. C'était
Power
cool.
Ce soir. Merci Nicolas Prinsen d'avoir joué cette partie de ping-pong avec Norman ce soir.
Un grand plaisir.
On en reste là pour cette émission. Merci à Marjorie Payon ainsi qu'à Mathilde Wagman qui a préparé cette émission. Dimanche prochain, je recevrai Joanne Hufnagel, le directeur de Libération, à la régie ce soir Alexandre Dang. Soft Power, une émission de Frédéric Martel réalisée ce soir par David Jakubowicz. Demain matin, dans la matinale de France Culture, Guillaume Erner recevra l'économiste Thomas Piketty. Je vous souhaite à tous une bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.